Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter Marie-Hélène Voyer, qui enseigne au cégep de Rimouski, mais qui est aussi une ancienne doctorante du CRIL, pour ceux et celles qui n'en avaient pas idée et information. Elle a soutenu en décembre 2014, déjà un petit bout de temps, une thèse de doctorat consacrée à la poétique de l'espace incertain dans le roman français et québécois contemporain, thèse qui est devenue par la suite un ouvrage publié chez Nota Bene en 2018, donc Terre invague, poétique de l'espace incertain dans le roman français québécois contemporain. Lecture inspirante, notamment pour sa conclusion qui ouvre plein de portes et qui est très éclairante des rapports entre l'espace et les personnages dans le roman contemporain. Marie-Hélène est également poète, toujours en 2018, l'année faste. Elle a publié le recueil Expo Habitat, que vous connaissez probablement, publié à La Peuplade, qui a connu une très bonne critique, a été très très bien reçue, également été finaliste du Prix des libraires du Québec et du Prix de poésie de Radio-Canada, je pense. Et l'ouvrage, ou du moins sa matière, a été, disons, mis en espace dans le cadre d'une capsule de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, une superbe capsule où on entre dans un espace et dans une bulle privilégiée pour pouvoir mieux sentir et le rôle de la poésie, le rôle du lieu, de l'espace, à travers cette écriture. C'est donc un très grand plaisir de la recevoir, de la retrouver, de la recevoir dans le cadre du séminaire « Écrire le lieu ». Pour cet intérêt pour la notion de territoire et l'écriture de l'espace, mais également par un lien privilégié avec la question des rivières, en lien avec le projet que Jonathan et moi avons sur les rivières imaginaires. Dans direct ligne avec tout ça, elle publie le mois prochain, je pense, en novembre, une suite poétique dans la revue Estuaire qui porte sur les fosses de rivières. Une suite qui témoigne d'un très beau travail sur la forme et sur l'imaginaire, tout en étant particulièrement empreint de sensibilité. Donc, vous surveillerez cette parution pour celles et ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir l'exclusivité. Certains ont pu le parcourir avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, reprenant un vers d'Expo Habitat, qui habite un lieu défondé, donner forme à l'informe, je te laisse la parole.
Merci René, qui parle de moi comme s'il m'avait tricoté. Hein? Ça paraît qu'on a passé beaucoup de temps autour de la machine à café, jadis naguère. Merci pour votre accueil, merci pour votre invitation. C'est un grand bonheur pour moi d'être de retour à la maison. C'est ça, même si la maison, bon, n'est plus dans le même pavillon, hein, j'ai quand même un peu de nostalgie pour les murs brutalistes du De Coninck, mais bon, malgré tout, la lumière est belle et vous avez un joli balcon. Je relisais, il y a quelques jours, le recueil « Pour les âmes » de Paul-Marie Lapointe, et puis je suis tombée sur un vers extraordinaire que j'aurais très bien pu utiliser comme titre pour cette présentation-là, tant il résume ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Dans son recueil, Lapointe pose la question, une question essentielle, pour qui s'intéresse à l'écriture du lieu et de la ruine. Lapointe demande « Que ferons-nous de cette pierre et de ce feu? » Je pense à cette question depuis quelques jours et je me demande par où commencer pour la nouer à cette espèce de trame fragile des réflexions que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et je ne sais pas trop par où commencer. Alors je me dis, je pourrais peut-être commencer comme dans mon recueil Expo Habitat et vous parler de mes lieux, de mes ruines. J'ai grandi dans un lieu qui n'existe plus. La plupart de mes souvenirs portent en eux des incendies. J'ai 6 ans et je joue avec des allumettes. J'ai 7 ans et je joue sur les ruines d'un vieux hangar brûlé, un peu comme ça, qui reste dans un état effondré très, très, très longtemps pendant mon enfance et j'y joue très souvent. J'ai 8 ans et je voudrais que le champ brûle. J'ai 9 ans et je regarde le ciel est rouge et l'air est dense et l'air est épais et je fixe derrière le fleuve la côte nord qui flambe. J'ai 10 ans et j'assiste impuissante à l'incendie de la ferme d'un voisin. Je réalise que le réel peut se consumer comme une pellicule. Je découvre l'impermanence. Il y a un trou dans le décor. J'ai 15 ans et puis ensuite j'ai 20 ans. J'étudie à Rimouski, une ville sans mémoire, une ville presque entièrement disparue en 1950 dans un immense incendie qui a ravagé près du tiers de la ville facilement. Le temps passe, puis j'ai 30 ans et j'habite désormais à Québec. une nuit d'hiver, la ferme familiale brûle. J'apprends tout d'un coup l'abéance des drames ordinaires, hein, ce genre d'histoire qui peut arriver partout au Québec. Chaque année, 200 fermes brûlent au Québec, donc il n'y a rien d'exceptionnel ici. Puisque les choses tristes sont parfois un peu drôles, je suis au même moment en train d'écrire un chapitre de ma thèse qui porte sur les ruines. Le temps passe, les choses se tassent, je soutiens ma thèse sur la poétique de l'espace incertain, puis je fais mon post-doctorat sur les pyromanes dans la littérature québécoise, hein, et sur leur désir de destruction. Chaque jour, je lis dans le journal l'interminable récitation des démolitions. On charcute nos paysages, on écrase nos églises, on éventre nos couvents, on assomme nos maisons à coups de pelles mécaniques. Et en voyant tout ça en faire, je me dis, on éborgne un peu notre sens de la durée et notre rapport au temps en négligeant nos lieux patrimoniaux, ce qui marque un peu le sens de l'histoire dans le monde où on habite, dans le paysage bâti que l'on traverse. J'essaie de garder le compte de ces pans d'histoire, de toutes ces mémoires que l'on efface sous le bitume, sous les condos tout neufs. Et je me demande pourquoi j'ai envie d'écrire sur tout ça. Peut-être parce que les lieux sont mes blessures préférées, ou peut-être parce que j'ai besoin, pour reprendre les mots d'Hélène Dorion, d'écrire au sujet de cette marche visible, de ce qui lentement se défait. Je me demande comment parler des lieux qui n'existent plus. Comment créer à partir de lieux dont les contours ont été estompés par l'oubli, par les éléments ou par le temps? Les ruines et les rivières ont ceci en commun qu'elles résistent à toute tentative de circonscription rigide et définitive. Elles se jouent de leurs propres limites et se dérobent constamment. C'est à partir de ces figures et de ces questions que j'ai envie d'aborder avec vous les enjeux formels et thématiques, mais aussi les différentes étapes du processus de création qui ont entouré mon recueil Expo Habitat, et également les questionnements, les points de friction qui entourent d'une manière plus générale l'écriture du lieu. Ma présentation va être entrecoupée de lectures d'extraits de mon recueil et d'autres recueils aussi, contemporains ou moins contemporains, de poésie québécoise, que je commenterai. Pour mieux jalonner ma présentation, je me suis dit, tiens, je vais choisir quelques phrases insistantes de Georges Perec, hein, qui est toujours près de moi, comme ça ici, souvent de ce côté-là, et qui me trotte souvent dans la tête. Des phrases avec lesquelles et contre lesquelles, surtout, j'ai commencé à écrire. Ces trois phrases me serviront donc de balise pour vous présenter la manière dont j'aborde l'écriture du lieu. Je parlerai d'abord de la genèse et des influences de mon recueil, et j'ai envie d'inscrire cette première partie sous la figure spatiale de la route. J'évoquerai ensuite les thèmes qui traversent Expo Habitat, avec sans surprise le recours à la figure de la ruine. Et finalement, par la figure de la maison, j'évoquerai mes outils, mes méthodes d'écriture, mais surtout mon rapport à l'engagement. Ce qui me mène donc à mon premier jalon pérequien pour évoquer la genèse de mon recueil, et c'est la phrase suivante. « Vivre, c'est passer d'un espace à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Cette boutade de Pérec m'a beaucoup marquée, probablement parce qu'elle ne me satisfait qu'à moitié, et je me suis principalement, pendant ma thèse, intéressée au cas contraire, c'est-à-dire que j'ai voulu explorer un corpus d'une trentaine d'œuvres où les personnages nous montraient plutôt que vivre, c'est multiplier les manières de se heurter au monde, de se heurter à l'espace, c'est s'y frotter parfois avec maladresse, avec humour, mais aussi avec désespoir, souvent. Les œuvres que j'ai fréquentées pendant mes années de recherche m'ont appris qu'écrire le lieu, écrire l'espace, ce n'est pas seulement faire état des propriétés physiques du monde. Ce n'est pas non plus chercher à exalter à tout prix les qualités du paysage que l'on regarde. Parce que le lieu n'est jamais une donnée neutre. Le lieu est d'abord perçu et vécu. On l'observe toujours à travers le filtre de notre mémoire, de nos affects, de nos perceptions, de nos connaissances et de nos souvenirs surtout. Écrire le lieu, c'est donc tout à la fois, selon moi, tenter de le traduire avec les outils poétiques, mais surtout accepter de le trahir, puisque notre mémoire et notre perception sont lacunaires et partiales. Si l'ossature des lieux existe, il revient à l'écrivain, au poète ou à l'essayiste d'en façonner la chair et les muscles. Et c'est là qu'il faut s'autoriser une part de trahison qui est très saine. Et d'ailleurs, dans le recueil, je le dis à quelques reprises, il faut leurrer les lieux aussi, hein. Il faut un peu s'en libérer en acceptant de les trahir. Dans Expo Habitat, j'ai voulu traduire les tensions un peu tiraillantes qui traversent tout sujet qui habite un lieu, alors qu'il se sent ballotté entre des sentiments de désarrimage et parfois, heureusement aussi, des impressions plus sereines d'adéquation avec lui, entre lui et l'espace. J'ai voulu maintenir et creuser pendant tout le recueil cette ambivalence parce que écrire le lieu, c'est revenir, recreuser, retourner constamment les mêmes images, les mêmes charpentes pour en examiner leurs revers. C'est surtout y chercher des ouvertures, y chercher des crevasses, des zones d'ombre, des zones d'inévidence, des failles sous le vernis lisse de ce qui se donne à être des évidences au premier regard. Si je réfléchis à la genèse de ce recueil-là, un recueil ne part jamais du vide, hein, c'est toujours une somme d'expériences, d'impressions, de lectures qui confusément en nous suivent leur chemin comme ça. Donc, si, je me suis demandé s'il y avait un moment fondateur dans mon envie de réfléchir au lieu et à l'espace. Et le détonateur universitaire, disons, a été sans l'ombre d'un doute ma rencontre avec les travaux de Marc Auger sur le non-lieu. J'ai eu très, très tôt envie de le contredire, en fait, de pointer les limites de sa théorie du non-lieu qui serait que purement fonctionnelle, désarrimée de l'histoire, anhistorique et sans épaisseur relationnelle. Contrairement à ce qu'affirme Marc Auger, je ne crois pas qu'il existe des lieux lisses qui ne déposent aucune trace en nous et où on ne déposerait, nous, en retour, aucune trace non plus. Pour reprendre les mots de Jacques Brault, dans son recueil « Il n'y a plus de chemin », au fil des routes, on laisse des morceaux. On traîne sa carcasse et un peu d'espace. On se met en ménage avec l'angoisse et la solitude. Brault s'intéresse à ces ruelles perdues, à ces chemins ordinaires, tout croches, un peu empêtrés, sur lesquels on chemine tous un jour ou l'autre. Il pose son regard sur les lieux précaires où s'agitent nos existences fragiles. Et il se demande, quel est ce lieu qui chante tout seul, à demi rongé, d'un air mauvais? Quelle ville autour s'étend déserte? Marie-André Gill ne dit pas autre chose dans son recueil frayé lorsqu'elle affirme « Chercher sans relâche, quoi faire? Quoi faire de sa peau? Par les petites rues, les chemins de bois, les raccourcis de cimetières et de chemins de fer, chercher, chercher. » On le voit, le chemin est le lieu d'une quête, d'une recherche, mais c'est aussi le lieu de rencontre et d'ouverture. Si on prend l'étymologie du mot « chemin », on voit, par les termes latins, « via rupta », hein, »,« voie rompue »,« voie frayée », c'est-à-dire « chemin patiemment ouvert ». Et il me semble que Gaston Miron aussi résume un peu ce rapport au chemin dans son poème « Séquence », lorsqu'il nous dit « que le poème soit le chemin des hommes et du peu qu'il nous reste d'être fiers ». Laissez-moi donner la main à l'homme de peine et à mironner. Ici, il invente un mot, mais on sent bien à quel point pour lui le chemin est le lieu de la rencontre, de la fraternité et de la relation. Pour poursuivre avec ces métaphores de la route et du feu, qui sont toujours un peu tricotées, serrées dans ce que j'écris, j'aimerais vous lire un extrait de l'essai « La route du pays brûlé » de Jonathan Livernois, parce que c'est un essai vers lequel je suis revenue souvent pendant l'écriture d'Expo Habitat. Notamment parce qu'il illustre bien ce que je pense des lieux modestes qui ont ponctué notre enfance ou qui ponctuent encore notre quotidien. Ces lieux ne sont jamais anhistoriques. Il n'y aurait pas d'une part des lieux monumentaux et d'autre part des lieux voués à rester sur les bas-côtés de l'histoire. Et il y a plusieurs toponymes magnifiques dans ton essai, Jonathan. Ta géographie personnelle est absolument formidable. On pense au rang des crevés, mais aussi, pour l'extrait que j'ai choisi, à cette route du pays brûlé. Et je suis très sensible à ces toponymes, hein, au Bécoussi, dans mon recueil, là, l'île au massacre, l'anse à Mouicu, c'est des choses qui marquent beaucoup l'imaginaire, ne serait-ce que cette manière de nommer les lieux que l'on traverse. Donc l'extrait de son essai va comme suit. À part une cour à scrap, qu'on devine au loin, et une affiche qui annonce des antiquités qu'on ne trouvera pas, il n'y a pas grand-chose sur la route du pays brûlé. Il y a tout de même une voie ferrée dont parle l'écrivain Jacques Ferron dans son recueil « La conférence inachevée ». Enfin, il prenait ce train qui filait au-dessus du brûlé, trois maisons et des bâtiments, un petit rang qui se perd dans les prairies de foin bleu et les marais. Pas grand-chose, donc, ici. Pourtant, cette route m'est chère. Étrangement, je m'y sens bien. Comme si je comprenais que le fil du temps était plus droit qu'on pense. On le voit avec ces exemples de Brault, de Gill, de Livernois, puis même de Miron, les lieux ne sont pas des fenêtres opaques. Les lieux sont plutôt des miroirs. On y dépose des choses et ils se font en retour le reflet de notre mémoire et de nos affects. De la même façon, les paysages que l'on prend en photo sont toujours, dans une certaine mesure, des autoportraits. Si je me passionne pour les granges vides, les croix de chemin, les lieux béants ou un peu abandonnés et brumeux, c'est parce que je suis aussi béante et abandonnée et brumeuse. Non, j'exagère, j'exagère. Non, mais c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Hein? Notre corps est toujours un peu aussi une grange vide. Hein? C'est les mots de Miron encore. Et tout ça, tout ce que l'on prend en photo et qui me sert après de matière pour écrire, ça appartient au pays que l'on habite. Ce pays de jointure et de fracture qui est le nôtre. Toujours pour reprendre les termes de Miron. Chose certaine, on habite les lieux autant qu'ils nous habitent. J'ai donc pensé Expo Habitat comme une cavale poétique à travers le territoire québécois. Une cavale accomplie par une enfant née sur une ferme au début des années 80. Une enfant qui aime creuser la terre autant que les mots. Ce recueil se veut donc une traversée des lieux ordinaires, des lieux laissés pour compte, qu'ils soient ruraux ou urbains. Mais aussi des mythes et des taches aveugles de notre imaginaire territorial. Je trouvais ça très important de toujours garder cette tension entre ce que l'on nomme, ce que l'on voit, mais aussi les impensés, les taches aveugles de notre paysage ou les choses que l'on nomme sans pourtant connaître, comme le Grand Nord, entre autres. Si je remonte plus loin dans la genèse de mon envie d'écrire sur l'espace, je pense au premier recueil de poésie qui m'a été offert pour ma confirmation. Au tout début de mon adolescence, donc, et c'est « Regards et jeux dans l'espace » de Saint-Denis Garneau. Et plusieurs échos de ce recueil apparaissent dans Expo Habitat. Ils s'y manifestent par la présence de l'enfance, bien sûr, par la notion de jeu avec mes épivardages, par l'importance accordée à l'espace, évidemment, mais surtout dans plusieurs poèmes, par cette attention que j'ai toujours voulu porter au déséquilibre, aux ébranlements que portent en eux les lieux et les gens qui les traversent. Je vous lis le poème liminaire de son extraordinaire recueil que vous connaissez sans doute déjà très bien. Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là, je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. À l'image de ce poème, dans Expo Habitat, j'ai cherché ce qui, dans chaque lieu, nous ébranle et nous sidère. J'ai voulu faire l'inventaire des micro-secousses dont ils sont porteurs. J'ai donc tenu à aménager beaucoup d'espace à cette ambiguïté que l'on peut ressentir face à la vie, à la campagne ou à la ville. Et le poème inaugural de mon recueil se présente lui aussi sous le signe du déséquilibre, de la chute et de l'ambivalence. C'est un très court poème qui va comme suit. Tombé du fenil, tu te réveilles sur le ciment, sonné, le front léché par une vache, et tu découvres quelque chose comme la tendresse. Oui, c'est autobiographique si vous voulez me le demander, hein, mais je trouvais ça important de marquer le début du recueil par la chute, par le déséquilibre, et aussi toute cette ambivalence de rencontrer la tendresse à un endroit où on ne s'y attend pas spécialement. Ce poème inaugural agit comme une métaphore de cette poésie que j'ai voulu littéralement sur le plancher des vaches et comme une représentation de ce rapport à l'espace toujours tendu entre des impressions contraires. Le rapport malaisé à l'espace apparaît souvent dans mon recueil. J'ai notamment tenté de déboulonner le mythe de ces grands espaces qui exhalent un air de liberté. Je montre le paradoxe de cet enfermement ressenti au cœur même de la vastitude du territoire québécois. Et on le voit notamment dans le poème à la page 12 du haut de ta balançoire, où dans une énumération presque enfantine, je viens un peu mettre en place une sorte de verticalité qui vient pourtant s'écraser sur les deux derniers vers qui en constituent l'antithèse. Du haut de ta balançoire, tu vois deux jardins, deux hangars, trois vieilles granges, une ferme, trois bosquets, deux rivières, six, sept, huit champs, beaucoup d'espace pour manquer d'air. Ce sentiment paradoxal de réclusion se manifeste également, par exemple, dans le poème « Ici, on voyage nulle part », à la page 14, où la foule de moyens de transport disponibles ne permet pourtant pas à l'enfant de pouvoir s'échapper de la campagne. Ici, on voyage nulle part, on fait juste des tours de bicyc, de pick-up, de tracteur, de batteuse, de pelle mécanique, de quatre roues, de wagon. Qu'il est long le temps de l'indépassable campagne. Et vous aurez remarqué que dans cette partie du recueil, j'utilise un vocabulaire extrêmement élémentaire. Là. J'utilise pas de grands mots et de grands concepts, puisque c'est malgré tout l'espace de l'enfance et de la parole enfantine. Donc, je trouvais ça important d'avoir un vocabulaire le plus épuré possible. Et même au niveau de l'intertextualité, ce n'est pas là qu'elle est le plus présente, puisque je ne lisais pas grand-chose à la ferme. Donc, même la textualité associée à ce lieu-là, j'ai tenu à ce qu'elle soit fidèle à la réalité, d'où les références au Reader's Digest, au bulletin des agriculteurs, puis au journal La Terre de chez nous, hein, qui était pour l'essentiel nos lectures principales. Et moi, je déchirais là, la BD Onésime, puis je les collectionnais à l'époque. Donc, il y a toujours cette espèce de conscience-là du vocabulaire, du lexique qui doit être associé à l'espace d'où il émane. L'ironie, vous le voyez, est très présente dans cette première partie du recueil. J'ai voulu qu'on ressente cette posture mi-figue, mi-raisin de la voix poétique qui déplore l'ennui vécu sur la ferme en énumérant paradoxalement la foule de jeux auxquels elle s'adonne sur cette ferme. Dans le texte Les épivardages, je propose en même temps un inventaire des gestes, des habitudes, des jeux, des rituels qui façonnent la mémoire d'un lieu. Et je vais y revenir parce que pour moi, les listes et les inventaires sont extrêmement important dans ce projet d'écriture-là. Alors que dans mon nouveau projet, je me libère davantage de ça, mais il y a quelque chose de très péréquien dans la démarche qui m'a habité dans l'écriture. Donc, je vous lis les épivardages à la page 21. On a joué avec les allumettes, flambé les quenouilles, mis le feu au nid d'hirondelles, cassé les œufs du poulailler, mis des grenouilles dans la moulée, lancé des flèches aux corneilles, construit des pièges à renards, broche à poules, clous rouillés, verres brisés. Enfermer le chien, le chat dans la niche, noyer les sauterelles, griller les araignées, briquet, loupe. Danser sur les poussins tendres, bardasser les poules, déplumer les oies, ligoter les veaux, libérer les vaches, effaroucher les bœufs, lance-pierre, carabine à plomb. On a piétiné les plates-bandes, inondé le jardin, les trous de siffleux, scié l'érable, cassé la scie, anéanti la corde de bois, saccagé le hangar, souillé la laiterie, dévasté la vacherie, ravagé le garage. On a lancé la clé du tracteur dans le baril d'huile à moteur. On s'est abreuvé aux vaches, on s'est gavé d'insectes, de fruits, de noix. On a déchiré nos robes légères, on s'est écorché vives dans les framboisiers. On s'est fait des masques de guerre avec du sang de petites fraises. On a jeté nos poupées sur le tas de fumier. On s'ennuyait toujours. Cette ironie, cet humour dans Expo Habitat témoigne de cette espèce de posture de l'enfant qui pense qu'il n'y a jamais rien à faire, qui se trouve donc loin de la ville, puis de ses amis, puis de l'école secondaire, et qui paradoxalement, finalement, fait plein de choses sans s'en rendre compte, qu'elle s'amuse énormément. Hein. C'est juste rétrospectivement qu'on comprend que c'était pas si pire que ça. Et cette ironie dans Expo Habitat est constamment sous-tendue par cette conscience plus grave du sort que l'on réserve au lieu d'une manière générale. Même dans ce dernier extrait, je pense qu'on sent, derrière la tonalité ludique et jubilatoire, une envie de détruire, une envie de saccage, et on va le voir maintenant, qui va de pair avec la figure de la ruine qui est très importante dans ma réflexion, dans mes lectures et dans mes chantiers d'écriture. Ce qui me mène au deuxième jalon péréquien de ma présentation, avec l'extrait suivant. L'espace est un doute, tout simplement. Dans Espèce d'espace, Georges Perec affirme qu'il n'existe pas de lieu stable, immobile, intangible, intouché et presque intouchable. Immuable, enraciné, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Perec n'adopte pas pour autant une posture nostalgique. Il prend plutôt le parti d'investir et d'inventorier ces espaces incertains qui nous entourent. Et c'est seulement là qu'on peut arriver à saisir à quel point l'espace n'est jamais une évidence, à quel point l'espace est un doute. Expo Habitat, il me semble, est saturé par cette conscience du doute qui traverse chaque lieu. J'ai voulu que mon recueil soit aussi parcouru par une sorte de conscience des ruines. On le voit d'abord par le poème de la page 34 qui ne tient que sur un seul vers. Mis entre parenthèses, comme pour mieux l'emprisonner, presque sur le mode de l'aveu honteux. Souhaiter que le champ brûle. On peut s'imaginer ici une enfant qui vit une réclusion campagnarde, qui en a marre d'être sur une ferme, qui le vit comme une injustice, et puis des fois, ben, elle aimerait bien que la ferme lui restitue son papa et pouvoir faire comme les copains et aller se promener en ville les fins de semaine. Donc là, souhaiter que le champ brûle, porte déjà en lui le germe ironique de drames qui vont se produire finalement. Le poème « Rien n'est indemne » à la page 57 se veut l'écho de ce souhait irréfléchi, changé ironiquement en prédiction autoréalisatrice, puisque la ferme a brûlé, dans le recueil et dans la vraie vie. Donc, je vous lis l'extrait de la page 57. Rien n'est indemne. Tu habites un lieu défondé. Tu habites un lieu béant, perforé, une plaie grise. Le silence compacte l'air, les maisons n'en finissent plus de se taire. Il n'y a plus que des terres incendiées, des silos renversés, des strates de tôle, des structures décharnées, des charpentes effarées, des volières vides, des maisons de mort, des dévotions vaines, des ciels fibreux, des fosses informes, des bêtes brûlées sur leurs stalles de vie sourde. Ici, les souvenirs sont des gestes souterrains. Ici, ben, vous le voyez, j'ai utilisé le procédé de l'énumération, mais c'est davantage pour donner une impression d'inventaire après sinistre qui vient clore la première partie de ce recueil. Je ne veux pas charrier une vision pessimiste du monde, mais je ne peux pas m'empêcher de toujours garder à l'esprit que les lieux sont des avant-ruines, des ruines en devenir. Et je retrouve cette hantise dans plusieurs de mes lectures. Quand j'écris, je repense souvent à ces mots tirés du roman « Hier » de Nicole Brossard. Je la cite. Les ruines sont des monstres lents qui n'en sont pas moins féroces. Elles sont à nos pensées ce que la corrosion est aux matières premières. Elles déposent en nous des images d'abandon et contaminent à tout jamais notre sens de la durée. En écrivant Expo Habitat, je repensais également beaucoup à Splendide Hôtel, ce splendide roman de Marie Redonnet, avec qui André et moi, on a pu en discuter parce qu'il appartient à mon corpus de thèse. Donc, c'est un roman qui met en scène une narratrice qui s'adonne à la rénovation entêtée d'un legs familial, d'un hôtel familial qu'elle a reçu en héritage, un lieu qui lui échappe de toutes parts, un lieu qui multiplie en quelque sorte les manières de devenir une ruine. Lire et décortiquer la poétique de Redonnet m'a donné les outils pour mieux comprendre comment je pourrais, moi, de mon côté, articuler une écriture de l'espace qui se veut aussi une écriture de la mélancolie et du désarroi. Chez Redonnet, la ruine est ce lieu défondé où le personnage essaie de s'intégrer et de persister avec un mélange de maladresse et d'entêtement. Et dans ce roman, la ruine est organique. En cela, elle imite un vaste corps malade assiégé de toutes parts. Donc, c'est très, très charnel comme roman. Dans le même esprit, mon recueil, même si on y voit des champs, des fleurs, des herbes, sont toujours campés dans des lieux un peu puants, sales, abandonnés, remplis d'animaux galeux ou boiteux, où on voit bon, quelquefois des corps de vaches qui gonflent et qui menacent d'éclater au soleil. Et ça, ça n'a rien de décoratif. Hein. C'est simplement tout ça en même temps, la vie à la campagne. J'ai aussi tenté d'aménager certains espaces textuels où la répétition traduit ce rapport recensant, ce rapport mélancolique et incantatoire au lieu. La longue suite poétique qui s'intitule « Vie rurale, mode d'emploi » et qui court des pages 32 à 40 résume bien cette envie de ressasser en établissant une longue liste d'injonctions contradictoires sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, sur ce qu'il faut dire et taire lorsque l'on vit à la campagne. Je vous en lis quelques extraits. Il ne faut pas craindre de toucher la clôture électrifiée. Il ne faut pas broncher quand les chocs crispent ton poignet. Il ne faut pas craindre le grésillement des pylônes, le concert aigu des coyotes dans le champ du sud, l'ours qui traîne à la lisière de la terre du nord, les oies vengeresses, les blessures aux jambes maigres, les chats purulents, pile ou face, tués ou soignés. Il ne faut pas avoir peur du noir, il faut chanter ou compter ses pas, 150 entre la maison et la ferme. Il ne faut pas s'imaginer un instant voir ton père tomber du silo, il faut gommer le vertige. Il ne faut pas craindre la gravité, il ne faut plus penser à la grange effondrée. Il ne faut pas craindre d'être broyé sous les roues du tracteur ou de glisser dans le convoyeur à fumier. Il ne faut pas craindre les plaies, les galles, les germes, le tétanos. Il ne faut pas songer à ces histoires de noyades dans les fosses à purins, à ces récits de suffocation dans les chargements de grains. Il ne faut pas penser aux émanations, aux vapeurs d'ammoniac, aux pesticides, aux engrais, aux poussières d'ennui que tu craches en riant. Plus tard, il faudra te perdre soigneusement dans le champ, errer entre les épis, reconstituer les pigeons d'argile, trouver des porcelaines lisses, trébucher, parfois te lécher les genoux, argile, sel, sang, puis chercher encore des fers et des lances et des restes et des épaves et des carcasses. Il ne faudra pas craindre d'être happé par la moissonneuse batteuse. Donc ici, encore une fois, la place de la liste, de l'inventaire, de toutes ces chorégraphies du quotidien qui animent et qui fabriquent un lieu apparaissent dans cet extrait. Et on voit encore une fois l'importance que j'accorde aux figures de la ruine, des débris et des restes, qui trouvent son ancrage dans un recueil qui a eu une profonde influence sur ma réflexion quant à l'écriture du lieu. Je pense que ça doit être mon recueil préféré dans l'univers, et c'est « Lignes aériennes » de Pierre Neveu. C'est un recueil qui a changé ma vie et que j'ai rencontré par hasard quand j'étais à un colloque à Toronto. Une étudiante faisait une présentation sur Neveu, et j'ai été absolument renversée. Hein. Tout ce dont je vous parle pourrait émaner de cet unique recueil, et je pourrais y trouver tous mes exemples. Donc, ça a été publié au Norrois en 2002, et dans ce recueil, Pierre Neveu traduit le fiasco de l'aéroport de Mirabel, où tant de familles ont été inutilement expropriées. C'est un recueil fondateur pour moi, en ce sens qu'il dénonce avec une extraordinaire virtuosité tous ces gâchis, tous ces monuments d'oubli que l'on s'érige collectivement plutôt que de protéger notre patrimoine rural, entre autres. Dans l'extrait que je vais vous lire, on voit comment, sur un ton ironique, Neveu exhibe les discours optimistes et la confiance aveugle des technocrates qui ont mis à exécution ce projet d'aéroport. Et je ne vous en lis qu'une partie, mais c'est un poème magistral. L'aérogare ne sera qu'une immense cage claire dont la structure aérienne allégera l'esprit. Et ce monde n'aura de religieux que ces églises de villages barricadés au bout des côtes au nom de saints et d'anges. Et dans ce haut triomphe de la raison, des avions cracheront aux 2 minutes de fines fumées chaudes, ensorceleuses de grand ciel, et nous vivrons dans la récitation des arrivées et des départs, dans la grâce des horaires respectés et des contrôles de mouvement, et la beauté sidérante des carlingues et des chromes. Nous y plongerons des yeux de fièvre et frôlerons de nos corps chauds les baies vitrées pour y laisser une empreinte à peine visible de nous-mêmes, la marque d'un doigt, ou la buée d'un souffle, avant de nous envoler vers des jours meilleurs. Et on sent bien ici l'extraordinaire efficacité de Neveu et toute l'ironie de la situation. Neveu pointe l'absurdité de cette raison d'État qui a décrété l'effondrement de tout un territoire pour bâtir un aéroport qui sera à son tour démoli quelques décennies plus tard. Je vous cite un autre extrait. « Un silence intégral fut décrété. » Dans un périmètre de 100 000 arpents, à l'intérieur duquel s'élèverait le sifflement très pur de l'ascension des hommes. Cette réflexion sur le sort que l'on réserve au lieu, sur le patrimoine rural ici, et que collectivement, par lâcheté, négligence ou ignorance, on décide de jeter aux orties, est très présente dans mes chantiers d'écriture. Pour mon deuxième recueil sur lequel je travaille, je continue à articuler ces thèmes de la ruine et de la mémoire avec celui de l'espace natal. Mais cette fois, c'est la figure de la maison qui m'intéresse énormément, peut-être parce que pour moi, la maison agit comme une chambre noire. C'est un lieu où les choses se révèlent. En cela, je suis très inspirée par le travail du poète François Turcot, qui publie aussi beaucoup à La Peuplade, et qui dans son recueil « Cette maison n'est pas la mienne » fait en quelque sorte l'archéologie d'une vieille maison, son histoire en négatif. Il examine ses moindres recoins, ses objets tétanisés, ses indices délavés. Il remonte le fil des époques. Il creuse ses survivances et ses fractures, ses destructions et ses reconstructions. Il explore, et je le cite, « toutes ces vies cumulées, concordantes, qui y ont habité ». Il se heurte le plus souvent au silence des murs que redouble le silence des photos de la maison, qui ne sont pas plus éclairantes pour en comprendre l'histoire. Je le cite. Paradoxe d'une archive, devant l'indice de sa propre perte, le gage du souvenir donne à voir sans ne rien dire. Et tout le ramène, je le cite une dernière fois, au récit lacunaire du vestige qui dort depuis trop longtemps. Parler de mémoire, de ruines et de maison me mène inévitablement à vous parler un peu de la question de l'engagement. J'ai donc envie, pour terminer, de vous parler de la question de la loyauté, parce que je réalise que ça a une grande importance, cette loyauté que j'accorde aux lieux et aux gens qui y ont habité, et que c'est central dans ma réflexion. Ce qui me mène donc à mon dernier jalon pérequien. Et je cite Pérec. « Se souvenir qu'un journal est une unité de surface, c'est la superficie qu'un ouvrier agricole peut labourer en une journée. » Que vient faire le journal dans cette histoire, me direz-vous? Mais de plus en plus, je constate que mon rapport à l'écriture a beaucoup en commun avec le journal, tel que le conçoit Pérec. Je parle ici du journal non pas comme un média, mais comme un outil de défrichage et de labourage du matériau poétique qui me permet d'écrire. Cette phrase aussi, je la trouve bien commode parce qu'elle me permet de résoudre un tiraillement que je ressens quant à mon envie de parler du monde agricole. Comment parler de ce lieu que j'ai tant voulu fuir? Pourquoi en faire un recueil? Comment ne pas me sentir un peu imposteur en faisant des ateliers d'écriture et des conférences au sujet de la vie à la ferme que j'ai tant reniée et détestée jusqu'à ce que la ferme disparaisse, évidemment? Donc, il me semble qu'il me faut constamment m'assurer de baliser ma loyauté face à ce qui s'est réellement passé. D'un point de vue très concret, ça passait d'abord pour moi par la nécessité d'insister dans ma notice biographique sur le fait que je ne sais pas traire une vache. Hein. C'est important pour moi parce que tout le monde qui vient du même rang que moi savent très bien que je ne sais pas traire une vache, que je ne me suis jamais levée de bonne heure pour aller aider mon père et que j'étais une très mauvaise, fille d'agriculteur, finalement. Ça passe également par le fait de nommer frontalement l'ennui et la honte que j'avais d'habiter dans le monde rural. On le sent un petit peu au début de mon recueil. Le fait d'écrire et de nommer cet ennui, cette honte, devenait la condition première à une réconciliation entre deux univers qui étaient pour moi antinomiques, la littérature et l'agriculture. J'écris donc chaque jour quelques pages dans mes carnets d'écriture qui agissent comme l'équivalent symbolique d'un morceau de terre que je laboure. C'est très, très commode de me réconforter là-dedans. Quand je me documente pour écrire, j'essaie de multiplier les outils de présence. C'est une expression que j'ai trouvée dans l'extraordinaire recueil « La société des cendres » de Martine Audet qui vient tout juste de sortir. Je crois même que le lancement était ce soir à Montréal. Et dans ce recueil, la poète se questionne sur ce qu'il faut recueillir et disperser dans un monde voué à l'effacement. Mais pour moi, ces outils de présence agissent comme autant de moyens d'enregistrer, de compiler, de traduire et de révéler surtout des lieux avant, pendant et après leur disparition. Si je vous dis quelques mots de mes outils d'écriture, vous avez peut-être remarqué à quel point les listes ont été importantes dans ce projet-là. Et je fonctionne à peu près toujours de la même manière. C'est une manière pour moi commode de me donner l'illusion que je ne laisse rien d'innommé, même si l'exhaustivité est un leurre absolu. Mais bon, les listes sont centrales dans mon pré-travail, là, avant d'écrire. Sans doute parce que je veux, donc, comme je vous disais, éviter de laisser des choses innommées. Je fais des listes parce que, pour reprendre une expression de Bruno Blankmann que j'adore, je pense qu'il n'y a pas d'invention sans inventaire. Donc, je prends des notes de terrain, je note beaucoup de choses dans mes carnets. Je prends aussi énormément de photos de bâtiments, d'objets, de ruines, de champs, mais aussi du sol, de ses textures, de ses couleurs, de ses herbages. Et je confronte mes photos au manuel de botanique « Vive la flore laurentienne » de Marie-Victorin, qui ne me quitte jamais très, très longtemps. Je fais les inventaires des objets, mais j'en dresse aussi la généalogie, parce que pour moi, les objets sont porteurs de récits. Ils résument, condensent et métaphorisent la vie de leurs propriétaires. Je cherche à traduire les différentes épaisseurs du lieu, épaisseurs matérielles et symboliques, mais aussi et surtout épaisseurs mémorielles et historiques. Je fais beaucoup de recherches dans les archives, dans les journaux. Je cherche à mettre en relief les événements qui ont secoué un lieu. Je cherche dans ces lieux ce qu'il reste de ces événements. Et si je fais des inventaires des lieux, je m'intéresse surtout aussi à ceux qui y habitent. C'est très important pour moi. J'ai voulu qu'Expo Habitat donne une image réelle de l'agriculture et soit traversée par la voix des gens qui ont vécu avec moi dans ce monde agricole. J'ai voulu aller au-delà des évidences et des clichés bucoliques associés à la ruralité. Donc, mon engagement ou ma loyauté se manifeste notamment par le fait que j'ai voulu rendre Expo Habitat immédiatement lisible et compréhensible par les gens, par le monde d'où je venais. Hein, j'ai dédicacé ce recueil à ma grand-mère, ben, il fallait qu'elle puisse le lire sans trop s'enfarger. Je tenais aussi à traduire l'oralité des gens de chez nous. Donc, je dressais des listes de leurs anecdotes, de leurs manies, de leurs jurons, de leurs petites invectives et de leurs insultes ordinaires. Et mes listes, je les fais toujours sans hiérarchie. C'est très, très important. Donc, elles mêlent culture populaire, souvenirs personnels, régionalisme et références littéraires. Et puis, à la toute fin, je tricote tout ça. Je dirais que l'intertextualité, ça arrive vraiment à la toute fin du processus d'écriture, là. Mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est très important que mes listes n'aient pas de hiérarchie. Et on rencontre hein, dans mon recueil donc, des personnages comme Jean Rivard, Jack Monoloy, Joe Monferrand, mais aussi des personnages inventés par mon grand-père, que ce soit Sauvage ou Turchaine. En écrivant, je cherche dans le vieux dictionnaire Bellil que m'a donné ma grand-mère, je me documente énormément dans le glossaire du parler français au Canada, je pose des questions à mon père, à mes oncles, à de vieux amis de la famille, je confirme mes souvenirs, les confronte à leurs récits, et tout ça, ça se passe pas mal toujours à la cabane à sucre autour d'un verre de gin, que j'essaie de boire sans trop grimacer pour leur montrer que je suis vraiment une des leurs. Et donc, j'ai envie de rendre hommage à ces vies muettes, souvent invisibles, qui animent la ruralité québécoise. Et on a tous nos paysages, nos personnages un peu mythologiques comme ça, qui nous reviennent en tête quand on pense à tout ça. En terminant, je tiens à dire à quel point je reviens souvent au recueil de Pierre Neveu, qui déploie l'écriture des lieux aussi par le biais de ces vies minuscules qui les ont habitées. C'est très, très habile, le recueil de Neveu, en ce sens que on voit essentiellement l'avant Mirabel et l'après Mirabel. L'avant Mirabel apparaît notamment par la figure de l'arpenteur un peu désœuvré qui fait sa job, qui exécute ce qu'on lui demande, mais qui sent bien là, qu'il est un peu traître, puis qu'il y a des choses qui vont se passer et que les habitants ne le savent pas encore, les habitants de la campagne. Et après Mirabel, où là l'aéroport est complètement abandonné et on voit une femme de ménage triste qui erre dans ces lieux-là, un peu vain. Et encore une fois, il y a tout ce désœuvrement. Donc je trouve ça très intéressant comment il arrive à nommer un drame, mais par en le prenant par ses contours, par son avant, par son après, et par les vies minuscules qui ont été affectées par ça. Pour la suite, pour mon prochain recueil, celui sur lequel je travaille présentement, je sais que j'en ai pas fini avec cette volonté de nommer ces lieux de peu, ces lieux niés, démolis, effacés de notre mémoire, ces lieux dont on ne parle pas assez ou dont on ne parlera bientôt plus. Tout ça parce que parler des lieux et de leurs failles, c'est parler en filigrane de nous-mêmes qui habitons dans ces lieux. C'est parler de nos amours, de nos espoirs, de nos arrachements. Je vous l'ai déjà dit, les lieux sont mes blessures préférées. Et pour paraphraser Annie Ernaux, j'écris parce que toutes les images disparaîtront. J'écris pour sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Merci de votre écoute. C'était bien plaisant.